Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.
Bonjour à toutes et à tous. Connaissez-vous l'escargot de Quimper ? En fait, il n'est pas que de Quimper, cet escargot. On le trouve à différents endroits de Bretagne et même au Pays Basque. Mais cet escargot, comme toutes les petites espèces, a un grand intérêt pour la biodiversité. Avant d'en parler dans quelques minutes avec Stéphane Visa, fin connaisseur de ce type d'espèce à l'association Bretagne Vivante, direction la station biologique de Paimpont, dans le pays de Brocéliande, où l'escargot de Quimper est étudié à la loupe. C'est un sujet signé Aurélien Houdailleur et Loïc Lehir de Timbre FM, votre radio associative à Augan et dans sa région.
Voilà. Ça paye pas de mine comme ça. C'est un des lieux où on bosse sur les escargots.
Du coup, c'est ce qu'on appelle l'escargot de Quimper. Donc, c'est Elona Quimperiana. Donc, c'est une espèce protégée par plusieurs conventions. Il y a la convention de Berne ou la convention Habitat au niveau européen et nationalement aussi. Du coup, il n'y a pas le droit ni à prendre la coquille, en vendre, manipulation. On n'a le droit de rien y faire sous peine d'amende. C'est un escargot qui a une coquille assez plate. Pas totalement, mais elle est sur le même plan, très marron, marron foncé, avec des petites taches sur la coquille. Et ça, c'est pas la coquille, c'est-à-dire que si tu trouves une coquille vide, tu verras pas les taches. C'est l'intérieur de son corps qui est dedans, c'est là-dessus qu'il y a les points, les petites taches. C'est pas la coquille, c'est son manteau, ce qu'on appelle. Alors en fait, à la base, il y en a pas ici, sauf qu'il a été introduit un peu par erreur. Elle est pas très connue, cette espèce. Et le but, c'était de comprendre un peu, dans un nouveau milieu, comment elle va se propager au niveau de la population. La technique, c'est le capture, marquage, recapture. C'est-à-dire que le but, c'est sur une population comme ça, c'est de capturer le plus d'individus de la population, de la marquer comme ça, avec un double marquage, ça évite qu'ils les perdent. Et ensuite, c'est à des points donnés de temps, on va revenir refaire des captures pour suivre un peu l'évolution de la population, voir le nombre de nouveaux individus qu'on va recapturer pour les remarquer encore. On mesure la taille de la coquille, on regarde un peu leur aspect et à chaque fois on note aussi leur position dans la zone de population.
Donc moi je suis Pascaline Leguard, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Rennes 1. Dans l'unité de recherche qui s'appelle Éco-bio, écologie, évolution, biodiversité. Je travaille à la base sur la conservation de la biodiversité avec les espèces sur lesquelles j'ai travaillé. C'était plutôt jusqu'à présent des vertébrés, des oiseaux ou des primates, mais toujours dans leur milieu sauvage pour comprendre quels sont les facteurs qui vont les faire décliner, parce que souvent c'est des espèces menacées. Comment le comportement qu'ils ont peut influencer la croissance de la population, etc. Donc j'étais assez loin des escargots dans un premier temps. Et il se trouve que j'ai participé en 2017 au BioBlitz, ici à la station, qui est en fait un inventaire éclair de la biodiversité, qui a été fait sur 2 jours et qui rassemblait des experts de tous les taxons. Et c'est en discutant avec une collègue qui était plutôt spécialiste mollusques terrestres, donc escargots, limaces, que je me suis aperçue et j'ai réalisé qu'il y avait ici à la station une espèce protégée, au même titre que certains animaux sur lesquels j'ai travaillé, c'est-à-dire une espèce qu'on ne peut pas déplacer, perturber, qui nécessite des plans de gestion, et sur lequel on ne connaissait rien en fait, parce que c'est un invertébré, un petit escargot, terne. À première vue, ça ressemble à un truc baveux qui se déplace et qui nous gêne plutôt quand on se déplace. Et donc, quand j'ai réalisé que finalement, on savait très peu de choses et qu'il y avait besoin de connaissances pour mieux mettre en place des actions de gestion, j'en ai parlé avec donc une collègue qui est vraiment spécialiste des escargots et moi, plus spécialiste du suivi de population. On a monté ensemble ce projet à la station qui est de marquer les individus pour estimer les tailles de population, comprendre leur histoire de vie, comprendre comment ils se déplacent dans le milieu Et puis aussi mettre en place un suivi qu'on appelle non-invasif pour ne pas perturber les espèces. Parce que souvent, chez les invertébrés, on a tendance à détruire une partie des individus pour faire des analyses génétiques, par exemple, parce qu'on a du mal à récupérer d'autres matériels. Et là, on a mis en place un suivi où on récupère la bave d'escargot avec une espèce de coton-tige et on récupère ce qu'on appelle de l'ADN, qui nous permet aussi d'avoir une analyse génétique des populations sans détruire la population. Donc c'est parti de discussions entre un invertébriste et une vertébriste et surtout d'un intérêt pour mieux comprendre la biodiversité qui nous entoure et chercher des solutions efficaces pour la gestion de la biodiversité. Donc voilà la population la plus éloignée. C'est en fait un gros tas de bois pourri dont on n'a aucune idée de l'origine. Tous les gens qu'on a interrogés nous ont dit qu'ils l'avaient toujours connu. Donc il doit avoir plus de 40 ans. Qui a été bâché. Ça c'est super pour les escargots, les limaces. Parce que là il y a un garde-manger pour des milliers d'années je pense. De quoi être aussi à l'abri de pas mal de prédateurs. Et donc, notre suivi vise à venir recenser tous les 2 mois les individus qui sont présents. On les note, on a leur histoire. Donc, ils ont des marques qui permettent de les reconnaître. Et donc, je remarque qu'il y en a un qui n'a pas de marquage. Donc, on l'a éventuellement raté aux séances d'avant. Et celui-ci aussi, 2. Donc c'est pas parce qu'on a mal travaillé, c'est certainement parce que ces individus étaient soit vraiment tout au fond du tas de bois, ou ils sont venus de pas très loin, parce qu'en fait, en faisant des prospections, on a vu que chaque petite souche, chaque bois mort, pouvait abriter cette espèce. Et en une semaine, ils parcourent, on va dire, entre 1 et 3 mètres, mais ça suffit pour faire cette distance-là. En 2 mois, ils peuvent très bien venir de la souche qui est là-bas. Donc ça nous permet aussi de mesurer les taux de dispersion, d'entrée, les taux de reproduction, parce que parfois on peut en trouver des très petits. Là, je ne pense pas, parce que la session de reproduction, c'est plutôt début du printemps et puis ensuite une deuxième en automne. Là, celui-là, il date de l'année dernière. Il a un numéro jaune, numéro 45. C'est un adulte, un très vieil adulte. On voit aussi que sa coquille, elle commence à perdre de sa brillance. Voilà, il doit avoir plus de 2 ans, voire 3 ans. Donc peut-être qu'on retrouvera sa coquille vide, il sera mort. Et donc ça pourra nous aider pour estimer un peu mieux la survie de cette espèce et savoir combien de temps elle vit. Mais aussi, en connaissant les taux de survie, les taux de reproduction, on peut savoir qu'une population, si on met 10 individus dans un projet d'aménagement, on déplace 10 individus dans un tas de bois très favorable, on sait que l'année d'après, on en attend tant, etc. Ça nous permettra de suivre si tout se passe bien pour la population qui a été déplacée. Donc en fait, grâce au premier inventaire de biodiversité, moi, ça m'a permis d'être sensibilisée à une espèce très très lointaine de mes espèces d'études de base. C'est petit, ça ne se voit pas beaucoup, ça ne vole pas, ça n'a pas de poils. On pourrait penser que ça a un comportement très limité. Mais en fait, c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit, en regardant leur histoire de vie, qu'ils ont une vie un peu plus complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Et aussi, on s'aperçoit qu'il y a des mesures assez faciles, finalement, pour préserver cette biodiversité qu'on dit inconnue, méconnue, et qui est pourtant bien utile. Il suffit de préserver du bois mort, des délaissés, de mettre une petite bâche, une petite plaque, ça suffit à abriter une population et à maintenir une certaine biodiversité. Donc après, ce suivi-là, à la station, comme on a un milieu aussi qui est peu perturbé, on sait quels aménagements vont avoir lieu s'il y en a, on peut créer des plans de gestion facilement. Ces populations-là, c'est plutôt des populations un peu pilotes qui nous permettent d'échanger avec des gestionnaires de réserves naturelles, de sites Natura 2000 ou bien des chargés de mission dans des grosses associations type Bretagne Vivante, enfin, qui peuvent être amenés à discuter avec les aménageurs pour leur montrer des protocoles possibles, transférer les connaissances et voir aussi si ces protocoles sont facilement applicables dans leur métier. Parce que nous, en tant que chercheurs, c'est vrai qu'on peut se dire, vous avez le temps de venir tous les deux mois observer, admirer le bel escargot avec ses taches. Donc on cherche maintenant, avec toutes nos données, à voir quel est le protocole qui serait le plus efficace pour ces personnes. Je dis, on n'a pas besoin peut-être d'autant de suivi, mais au moins faire une session de capture, une session de recapture, c'est déjà quelque chose qui apportera beaucoup d'informations. Ou bien être capable de différencier les différents stades et de dire, oui, ma population, elle est en bonne santé parce qu'elle a la bonne proportion d'adultes, juvéniles et de subadultes. Ça veut dire qu'elle n'est pas perturbée et qu'elle va bien se comporter. Voilà, c'est ce à quoi on vise avec mes collègues sur la partie transfert vers la société. Donc on fait aussi des recherches sur leur rôle dans l'écosystème. Quand la coquille est vide, cette coquille peut devenir un habitat pour des animaux plus petits. Donc ça, c'est plus ma collègue qui est sur Beaulieu, qui dissèque les coquilles vides et qui va regarder quels sont les animaux qui peuvent vivre dedans. Donc c'est souvent des petites mouches, on peut avoir d'autres petits escargots. Donc ça fait un micro-habitat pour d'autres espèces. L'escargot en lui-même, il participe à la dégradation de la matière organique, à la formation du sol. Voilà, il abrite toutes sortes de petits parasites qui permettent au cycle de la vie de s'entretenir. Et donc pour faire ces études, comme c'est une espèce protégée avec le plus haut statut de protection, il faut une autorisation.
Donc moi, si je veux introduire l'escargot de Quimper dans mon jardin parce que ça me parle, j'ai pas le droit.
Non, on n'a pas le droit. On n'a ni le droit de déplacer l'espèce, de la détruire, bien sûr, intentionnellement. Même les coquilles vides ne sont pas déplaçables. Si vous êtes pris dans votre voiture avec des coquilles d'Elona de Quimper, vous pouvez avoir une amende assez élevée. Cette espèce a vraiment un fort statut de protection. Parmi les invertébrés, il y en a très peu en France. Je pense qu'il y a deux escargots et peut-être une moule qui ont ce statut-là. On pense souvent aux grandes espèces parce qu'elles vont avoir besoin d'un grand espace, donc il faut la protéger. Sauf que cette espèce-là, la Bretagne a une forte responsabilité patrimoniale, on va dire, puisque l'espèce ne se trouve qu'en Bretagne occidentale. Donc normalement, Pimpon, c'est un cas particulier, mais on la trouve donc dans le Finistère et une partie Côte d'Armor et Morbihan, si c'est la seule population d'Ille-et-Vilaine. Et on peut la trouver aussi dans le nord de l'Espagne. Donc il y a des millions d'années, les deux sites étaient rejoints et ensuite la Bretagne s'est séparée de la Cantabrique et on a donc maintenant ces deux populations. Mais entre les deux, il n'y en a pas du tout. Et ailleurs en Europe et dans le monde, il n'y a pas cette espèce. Donc même si localement, elle peut être assez abondante, si vous allez à Brest, vous en trouverez assez partout. Et même, ça a été un problème pour la construction d'un stade de foot à Brest, parce qu'en voulant faire les travaux, il y avait des populations d'Elona quimperiana qui gênaient, entre guillemets. Donc le stade a dû être déplacé à ce point-là. Et les gens sur place pouvaient dire, oui, mais on en voit partout de ces escargots-là. Partout à Brest, mais dans le monde, non, pas partout. Donc c'est pour ça qu'elle a un fort statut de protection. Et que la Bretagne se doit aussi de mettre un peu des plans d'action adaptés pour garder cette espèce, pour la diversification.
Voilà à l'instant ce reportage sur cet escargot de Quimper avec la station biologique de Pimpon. Alors pour aller plus loin sur ce sujet de l'escargot de Quimper, mais aussi sur d'autres espèces peut-être très petites par la taille, mais très grandes pour la biodiversité, eh bien nous sommes en liaison aujourd'hui avec Stéphane Visa, entomologiste et herpétologue à l'association Bretagne Vivante, principale association de protection de la nature et de la biodiversité en Bretagne. Stéphane Visa, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Alors, tout d'abord, je viens de nommer deux de vos spécialités, l'entomologie et l'herpétologie. Je crois qu'il va être très utile qu'on les définisse pour faire bien comprendre à nos auditeurs de quoi il s'agit.
Ce sont tous les deux disciplines de la zoologie. Et l'entomologie s'intéresse aux insectes et les étudie. Et l'herpétologie s'intéresse aux amphibiens et aux reptiles.
Et pour les escargots ?
Alors les escargots sont des mollusques et le nom de la discipline auquel ils se rattachent, c'est la malacologie.
Alors On a entendu ce reportage à la station biologique de Paimpont, dans le pays de Ploërmel, Brocéliande. Comment vous réagissez à ce qu'on vient d'entendre, justement? Est-ce que l'escargot de Quimper, je crois que c'est une espèce que vous connaissez bien?
Ah, oh bah oui, habitant à Brest, on commence à avoir un peu l'habitude d'en entendre parler.
Oui.
Donc, on la connaît et on la suit plutôt pas mal. On sait à peu près où elle se trouve sur le territoire, en tout cas de Brest, et puis plus largement en Bretagne. Alors, le reportage, moi, je l'ai trouvé très, très intéressant, très juste. Et l'initiative qui est menée à la station biologique de Paimpont est non seulement à conforter, mais je pense à étendre même. Il faudrait multiplier les sites pilotes sur lesquels faire ce genre de travail en Bretagne, parce que c'est sur cette espèce-là, en tout cas, c'est nécessaire. Oui.
Alors, on l'appelle l'escargot de Quimper, on le trouve à Brest, et puis on le trouve donc du coup dans le pays de Brocéliande et à Paimpont, dans cette station biologique. Pourquoi l'appelle-t-on escargot de Quimper si finalement il est présent un petit peu partout en Bretagne?
Parce qu'en fait, il a été décrit pour la première fois à Quimper, au 19e siècle, ce qui est assez récent. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'escargot de Quimper. Mais on aurait pu l'appeler effectivement l'escargot de Brest ou l'escargot de Bayonne, quoi, parce qu'il est en Basse-Bretagne, en fait, c'est ça, pas en Haute-Bretagne, en Basse-Bretagne. Et donc il n'est pas partout en Bretagne, et il est aussi présent dans le Pays Basque.
Alors il n'est pas partout en Bretagne, il n'est pas partout en France. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Est-ce qu'il lui faut un habitat ou un climat particulier pour se développer?
C'est ça, vous avez donné les deux explications qui conviennent à la répartition de cette espèce et aussi à la répartition de toutes les espèces d'invertébrés et plus en Bretagne ou ailleurs. Les espèces sont régies par deux contraintes très très fortes. Par rapport à leur cycle, c'est le climat et l'occupation des sols. Voilà, c'est les deux grands volets qui expliquent la répartition bretonne de nos espèces et leur distribution spatiale, quoi. Voilà. Et l'escargot de Quimper, il a besoin d'un climat océanique, voire hyper océanique. Hein. C'est pour ça qu'on le retrouve pas en Haute-Bretagne, parce que déjà en Bretagne, le climat il se modifie un peu, il devient un peu plus continental, donc on va le retrouver vraiment aux franges océaniques. Et il y a vraiment des similitudes entre le climat basque et le climat breton, avec des hivers doux, beaucoup de précipitations, etc., etc. Donc ça lui convient parfaitement bien. Et aussi, il est lié au sein de ces poches climatiques, il est lié à des habitats très particuliers que sont les boisements de feuillus à tendance un peu humide. Voilà, parce que c'est un escargot de litière, de souche, de feuilles mortes, comme c'est bien expliqué dans votre partage.
Alors, vous disiez tout à l'heure qu'on entend parler beaucoup de cet escargot de Quimper, souvent à Brest, notamment quand on parle du projet d'une deuxième ligne de tramway. Pourquoi donc? Oui.
Alors, en fait, moi, je n'ai pas forcément travaillé sur ce sujet-là. Hein, je suis ça peut-être d'un peu plus près qu'un citoyen lambda, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Mais bon, en fait, il y a eu un épisode précédent qui a été évoqué dans le reportage. Là, alors dans le reportage, on parle d'un stade de foot à Brest. C'est pas vraiment ça. C'est un centre de formation à Plougastel, mais on n'est pas loin. Où la présence de l'escargot de Quimper avait fait avorter ce projet qui allait détruire, je ne sais plus combien, c'était il y a déjà une douzaine d'années, hein, d'hectares de bocage, enfin bocage qui était fréquenté par l'escargot de Quimper comme plein d'autres espèces. Donc à l'époque, ça avait fait grand bruit, même au-delà du secteur de Brest. Et puis ben, rebelote, là, cette année avec les travaux du tram en bordure de Pinfel, là dans le quartier de Bellevue, à l'endroit où un pont servant au passage du tram va être construit, un de ces piliers du pont tombe pile poil sur un boisement humide où se trouve l'escargot de Quimper. Voilà. Donc quand on est comme l'escargot de Quimper est une espèce avec une distribution très réduite et protégée à l'échelle nationale, On fait pas ce qu'on veut. Et ce que n'a pas fait d'ailleurs Brest Métropole, hein, je veux pas dire que Brest Métropole a fait ce qu'elle voulait, c'est pas du tout le cas. Mais du coup, il y a eu un certain nombre d'études et d'avis consultatifs supplémentaires qui ont été donnés. Puis là, on rentre dans le fameux triptyque, en fait, qui est éviter, réduire, compenser. L'évitement n'a pas été possible. La réduction, apparemment, pas, et ça a été compliqué. Donc, du coup, ça a conduit au déménagement des escargots de Quimper ou des escargots de Quimper qui ont été trouvés sur la zone pour les mettre 100 mètres à côté. Voilà.
En tout cas, ce petit escargot de Quimper, il a quand même du pouvoir de pouvoir peut-être bloquer des grands chantiers. Donc, c'est intéressant. Mais pourquoi, finalement, cet escargot est-il aussi protégé? On l'a entendu dans le reportage. On ne fait vraiment pas du tout ce qu'on veut avec cet escargot. Et vous venez de le préciser aussi par rapport à ces projets de travaux à Brest.
Il n'est pas si protégé que ça. Je veux dire, il est protégé comme plein d'autres espèces. Et il a le même statut que la mésange charbonnière ou la mésange bleue qui vient à la mangeoire au jardin. La protection des espèces, en fait, n'est pas complètement synonyme de rareté. Voilà. Il y a d'autres outils qui permettent de définir la rareté des espèces, mais pas la protection.
D'accord. Et en ce qui concerne justement cet escargot de Quimper, lui, est-ce qu'il est... protégé aussi parce que son espèce est en déclin ces dernières années ou pas du tout, justement?
Ça, je ne crois pas, mais on n'en sait rien, en fait. Et d'où l'intérêt du travail initié à Paimpont, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Bretagne, bien malin peut répondre à cette question. Il semblerait que non, dans la mesure où les aires historiques et la répartition historique qu'on connaît de l'espèce correspond encore à celle qu'on a aujourd'hui. Mais comment se portent les populations? Est-ce qu'elles sont en déclin? Comment elles évoluent? Quelles sont les tendances? Ça, on ne peut pas répondre à la question parce qu'enfin, c'est inimaginable de penser pouvoir un avis ferme et définitif sur les densités d'un escargot de Quimper à l'échelle de la région. Ça serait un travail titanesque que personne n'est en mesure de mener. Donc, on se réfère à la distribution spatiale. Là, on voit qu'elle n'évolue pas ou peu, comme je le dis.
Alors, on est très focus, Stéphane Visa, depuis le début de cette interview, sur l'escargot de Quimper. Mais quelles sont peut-être les autres espèces parmi les reptiles, les insectes et autres petites espèces, entre guillemets, qui sont aujourd'hui très protégées en Bretagne ou qui seraient de façon urgente à protéger?
Alors, vous mettez les reptiles dans les petites espèces, il y a des longs reptiles.
Oui, c'est vrai.
Tous les reptiles sont protégés par la loi, au même titre que l'escargot de Quimper. Tous les batraciens le sont. Il y a quelques exceptions sur les grenouilles vertes et notamment la grenouille rousse, pardon, qui a encore une protection partielle et pas une protection intégrale. Mais ça, c'est lié au fait que dans certaines régions de France et d'Europe, on les prélève encore pour les cuisses. Ça concerne moins la Bretagne. Voilà, mais sinon, toutes les espèces sont protégées. Et puis, parmi les invertébrés, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques espèces qui sont protégées. Et en général, ce sont des espèces qui sont indicatrices d'habitat et prioritaires ou en tout cas intéressants et menacés eux-mêmes. Parmi les autres invertébrés, il y a des pans entiers de l'entomologie qu'on maîtrise moins, où on a à peine des listes d'espèces à l'échelle régionale, parce que c'est très très vaste. Et du coup, pour l'instant, on s'intéresse beaucoup aux mollusques dont on a parlé, mais aussi aux libellules, aux papillons, à quelques coléoptères remarquables, et qui sont un peu mieux connus que les autres. Mais dès qu'on touche aux hyménoptères, c'est-à-dire les guêpes, les abeilles, et dès qu'on touche aux diptères, c'est-à-dire les mouches, il y a énormément d'espèces et on en sait encore beaucoup moins qu'avec les papillons. Donc tout ça est un peu aussi compliqué et c'est un vaste chantier.
Est-ce que justement parmi toutes les espèces que vous avez citées, il y a certaines espèces qui sont clairement en déclin, clairement menacées de disparition?
Oui. Ah oui, clairement. Mais il y a quelques semaines. Bretagne Vivante et une association qui s'appelle l'AER, qui est basée sur le territoire de la Loire-Atlantique et de la Vendée, on a sorti un livre qui s'appelle l'Atlas des libellules de la Bretagne à la Vendée, donc qui concerne les libellules sur ce territoire-là. Et on a donc tout épluché, tout regardé. On en a profité aussi pour éditer la liste rouge, alors que je n'ai pas sous les yeux, mais de mémoire, c'est un tiers des espèces qui sont menacées, quoi. Rien que sur cette catégorie d'espèces, donc rien que pour les libellules. C'est un tiers des espèces qui sont menacées ou quasi menacées. Alors, la notion de quasi menacée, elle veut dire que si on n'entreprend pas dès aujourd'hui des mesures de conservation, ma langue a fourché, les espèces vont rejoindre la catégorie des espèces menacées dans pas très longtemps, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu inquiétant. Sur les reptiles, c'est les mêmes constats. Sur les amphibiens, c'est les mêmes questions. Sur le même constat. Sur les papillons, c'est les mêmes constats. Et j'imagine que sur les autres groupes qu'on maîtrise moins, ça doit être le même constat. Ouais, tout ça est assez inquiétant, ouais.
Alors, c'est inquiétant. Et pour autant, il faut arriver à agir. Et comment on peut arriver à agir? J'imagine que, puisque l'homme est au centre des causes du danger qu'il fait courir à ces espèces, ça commence peut-être par de la pédagogie, j'imagine, pour effectivement sensibiliser le plus de monde possible à l'importance de ces espèces pour la biodiversité, tout simplement.
Oui. Moi, plus qu'à la pédagogie, je crois à la formation, en fait.
Ouais,
J'ai quand même le sentiment qu'à un moment donné, il faudrait que tous les acteurs qui agissent sur le terrain et qui à un moment donné manipulent un outil pour faucher, que ce soit une bord de route, un bord de route, une prairie, qui travaille sur un bois, une formation à la biodiversité, à la prise en compte de la biodiversité sur leur espace de travail, que ce soit des cantonniers, des employés municipaux, des gens qui travaillent à l'échelle de collectivités de communes, etc. Les gens des espèces vertes comme les gens des services environnement, enfin tous ces gens-là doivent avoir dans leur curriculum un temps de formation dédié à la biodiversité et un temps de formation régulier avec des piqûres de rappel pour essayer d'avoir sur au moins les espaces communautaires une meilleure réflexion sur ce sujet-là. Parce qu'il y aurait énormément de choses à faire. Mais pour l'instant, moi, ce dont je me rends compte, c'est que ça soit pour les gens qui sont plutôt dans l'aménagement, que ça soit pour les gens qui sont plutôt dans l'entretien, le plus souvent vécu comme une contrainte que comme un réel défi ou intérêt, quoi. Je veux dire, voilà.
Bon, Stéphane Visa, on parlerait avec vous pendant des heures. C'est passionnant. Malheureusement, on a toujours un temps contraint en radio. Mais pour qu'au-delà de notre entretien, nos auditeurs puissent peut-être encore plus se familiariser et aller plus loin sur ces enjeux de protection de ces petites espèces, et je mets bien les guillemets autour, pourriez-vous nous conseiller peut-être des sites internet de référence, des documents, voire même des ouvrages de référence sur la question?
Par rapport à la nature en général, je ne peux que vous recommander de vous abonner à la Hulotte et de relire les numéros de la Hulotte qui sont édités depuis maintenant 50 ans. Si je vais quand même un peu prêcher pour ma paroisse, d'acheter les livres publiés par Bretagne Vivante, les Atlas notamment, qui font un peu le tour de la question sur tous les sujets qu'on a évoqués ici, mais par groupe taxonomique, par groupe d'espèces. Donc, il y en a un sur les libellules qui vient de paraître, là, aux éditions de Locus Solus. Et puis, dernière chose, par rapport aux chiffres clés un peu de l'environnement en Bretagne et à tous ces enjeux, il y a un endroit où on peut retrouver une synthèse de toutes ces informations, puis un endroit où il y a beaucoup de ressources. C'est le site de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, l'OEB. Voilà, donc il suffit de taper OEB dans sa barre de recherche. Et on a accès au site. Et là, il y a quand même pas mal d'infos sur l'environnement en Bretagne.
Eh bien, Stéphane Visa, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes spécialiste des insectes, des reptiles, des amphibiens et de plein d'autres choses à l'association Bretagne Vivante. Le site internet de Bretagne Vivante, c'est le www.bretagne-vivante.org. Toutes nos émissions sont en diffusion sur les radios locales associatives de la Corlab et sur Radio Boa, leur émanation régionale en DAB+, sur une grande partie de la Bretagne. Vous retrouvez également nos podcasts sur le site de la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, corlab.org, rubrique podcast, émission biodiversité on air. À bientôt donc pour un nouveau numéro de notre magazine dédié aux actions en faveur de la biodiversité en Bretagne. Et d'ici là, prenez soin de vous et donc prenez soin de la planète.
C'était Biodiversité on Air, un magazine proposé par la Corlab, la coordination des radios locales associatives de Bretagne, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité.